Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je suis avec Roxane. Roxane, tu as 37 ans, tu es professeure dans un lycée de la banlieue parisienne. Alors, tu es en couple depuis plus de 2 ans avec un homme, tu es maman de 3 enfants et tu as été alternativement avec des hommes et avec des femmes. Alors, bonjour Roxane.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu au début de ton parcours sentimental? Et est-ce que tu as commencé ta première rencontre? Est-ce que c'était avec un homme ou avec une femme?
Alors, ma première rencontre, c'était avec un homme. En fait, dès le début de ma vie sexuelle, je pense que j'ai toujours été sensible, en fait, aussi aux femmes. J'ai toujours même fantasmé sur des femmes, je pense. Je pense que la vie sexuelle pour moi, elle commence pas avec les premières fois concrètes, physiques. Je me suis toujours sentie troublée par des femmes. Donc en fait, les premières expériences au sens propre du terme avec les filles, elles sont venues rapidement en fait dans ma vie sexuelle.
Est-ce que tu t'es posé la question de savoir si c'était bizarre, étonnant? Comment tu as accueilli le fait d'être aussi bien attirée par les hommes que par les femmes?
Mais je me suis posé la question, en fait, j'ai l'impression que quand j'avais 14, 15 ans. Est-ce qu'on parlait moins d'homosexualité, de bisexualité, ou est-ce que moi-même j'avais moins accès à ce genre d'informations? J'en sais rien. Mais en tout cas, je connaissais les définitions, mais j'avais l'impression que j'avais accès à moins de représentation de tout ça, qu'il y avait moins peut-être de visibilité. Ma famille, évidemment, j'allais dire évidemment, je dis évidemment, mais c'est parce qu'en fait, je pense à ma famille. Pour ma famille, l'amour, c'est l'amour hétérosexuel. Alors, il y a un fond de culture catholique, ils sont pas pratiquants, mais ils sont plus de culture que de foi catholique en réalité. J'ai été élevée. Pour ma famille, les conversations sur le sexe, c'était pas monnaie courante, c'était pas évident. L'homosexualité, c'était quand même quelque chose d'un petit peu tabou. Je m'étais fait un petit peu mon opinion toute seule. Moi, je sentais que j'avais pas de jugement. Ni quoi que ce soit, que j'avais des fantasmes aussi envers les filles, mais justement, c'était quelque chose qui quand même à la fois me paraissait naturel et à la fois m'interrogeait. Pas sûr est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, parce qu'en fait ça me semblait tellement naturel, tellement consubstantiel du désir, ça venait tellement naturellement que je me demandais pas si c'était bien ou si c'était mal, mais qu'est-ce que ça fait de moi? Est-ce que je suis lesbienne? À quoi va ressembler ma vie s'il s'avère que ces désirs-là déterminent la partenaire que j'aurai plus tard? Je me posais des questions parce que, justement, j'avais pas d'exemple à portée de regard, à portée de médias ou à portée d'entourage familial de couple homosexuel. Homo amoureux, j'ai envie de dire. Enfin, c'est vrai que j'avais entendu parler de sexualité homosexuelle, mais pas vraiment de couple homosexuel. Donc, c'était un petit peu difficile de m'imaginer, de me projeter, de me poser des questions sur quelle serait ma vie, si s'avérait que j'étais lesbienne. Donc, ça me paraissait un peu vertigineux, quand même, de me dire qu'est-ce qui se passe si je tombe amoureuse d'une fille, vraiment.
Alors, comment se sont passés? Est-ce que tu as oscillé? Est-ce que tu as alterné entre des relations avec des hommes et avec des femmes? Est-ce que c'était parfois en même temps? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Comment ça s'est passé? Comment s'est traduit ta bisexualité ces dernières années, en fait?
J'ai oscillé entre, les hommes et les femmes. Je pense que j'ai eu plus de partenaires masculins que féminins. Et en tout cas, je ne sais pas si c'est un hasard aussi, ça signifie quelque chose, mais je n'ai jamais été amoureuse d'une femme. Je ne me suis jamais vue en couple imaginer en couple avec une femme, alors que j'étais en couple avec des hommes. J'ai eu des histoires longues, je me suis projetée avec eux, j'ai été mariée, je suis divorcée, je vis avec un homme. Et je me suis souvent demandé si j'étais vraiment bisexuelle de ce fait, puisque j'étais pas bi-amoureuse dans les faits. Est-ce que j'étais vraiment... Alors, c'est un petit peu... Je me dis, quand je m'entends parler, quand je m'entends réfléchir à ça, je me dis qu'on intellectualise vraiment beaucoup les choses. Comme si, en fait, on n'avait pas droit au bas du bisexuel si on s'était pas mis en couple aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes, si les femmes avaient été une expérience sexuelle et pas amoureuse. Voilà, est-ce que c'est un hasard ou pas? C'est tellement... Voilà, c'est comme si je me demandais dans quel tiroir j'entrais, alors même que je suis la première à dire, à imaginer la sexualité comme un spectre. Et donc, il n'y a pas de raison que je me dise que j'entre pas dans le troisième tiroir du milieu bisexuel qui a coché toutes les cases, y compris d'être en couple avec une femme. Mais en fait, quand j'étais attirée par une femme, à chaque fois que j'ai fait l'amour avec une femme, j'ai toujours eu l'impression que je la voyais moins comme une autre que quand j'étais au lit avec un homme. Et que à chaque fois que j'étais amoureuse, ce qui m'a fait chavirer, c'était aussi l'altérité. Donc, je sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça qui entre en ligne de compte, qui a fait que j'ai pu tomber amoureuse d'hommes et pas forcément de femme. Et effectivement, ce qui m'a toujours fait vibrer avec une femme, c'était peut-être aussi moins l'altérité que la similitude et l'idée que je faisais l'amour à une autre moi-même, à la féminité, et moins que finalement à un autre individu, voilà, alors que c'était pourtant le cas. Donc voilà, je ne sais pas si c'est entré en ligne de compte.
Oui, tu m'avais dit, quand on en avait déjà parlé, que c'était presque masturbatoire que de faire, d'avoir des relations avec des femmes.
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, même quand moi je me masturbe, en fait, c'est rare finalement que je pense à mon partenaire ou à un homme... j'ai plutôt l'impression de faire l'amour à mon propre corps de femme, en fait, et d'être simplement dans la jubilation de mon corps, de la féminité, de mon rapport à moi-même. Et finalement, c'est un petit peu la même chose que j'ai rencontré quand je faisais l'amour avec une femme. C'est la jubilation de la féminité, de la beauté féminine, de la sensation de la chair féminine qui c'était pas la même sensation que le toucher du corps d'un homme, et c'est souvent meilleur.
Alors j'allais y venir, est-ce que tu as préféré l'amour avec un homme ou avec une femme, le sexe?
Si on devait faire une moyenne de tous les câlins que j'ai pu connaître dans ma vie, c'est meilleur avec une femme, de mon point de vue. C'est-à-dire que évidemment, j'enlève de cette expérience, de cette moyenne là, toutes les étreintes amoureuses qui dans lesquelles se joue autre chose, l'alchimie, les sentiments, tout ce qu'on veut. Mais disons que à connaissance égale, à sentiment égal, faire l'amour avec un homme qu'on connaît depuis peu, pour lequel on a du désir, mais pas forcément de sentiments, et faire l'amour avec une femme, c'est toujours meilleur avec une femme. Voilà. C'est du 100% en fait, avec une femme, alors qu'avec un homme, ça peut être très bien, ça peut être sympa, ou ça peut être ennuyeux. Voilà. Et j'ai jamais eu cette totale déception avec une femme. J'ai toujours trouvé que... Ouais, c'était toujours du 100% de réussite, de satisfaction. Je ne parle pas nécessairement, oui, en termes d'orgasme, déjà, premièrement, Mais même en termes d'expérience, de plaisir sur la totalité du rapport, ça a toujours été, je trouve, plus satisfaisant. Les femmes font mieux l'amour, j'en sais rien. Ou je leur fais mieux l'amour, j'en sais rien. Et je sais pas, est-ce que c'est dû... Alors, on se dit toujours que c'est parce qu'on connaît mieux le corps d'une femme, qu'elle connaît mieux notre corps, qu'on ne peut pas se retrouver avec la situation, par exemple, d'un homme qui a pas trop de notion de l'anatomie féminine et qui appuie sur le clitoris comme si c'était un bouton, une sonnette magique ou qui pilonne. Enfin, voilà, c'est, on a forcément, avec une femme, on a peut-être plus d'intuition de ce que l'autre pourrait aimer ou en tout cas plus de capacité à percevoir ces signaux, je pense. Il y a peut-être ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'était toujours meilleur.
Est-ce que tu arrives à identifier ce qui lie l'attirance, ce qui t'attirait chez un homme et ce qui t'attirait chez une femme? Est-ce qu'il y a des similitudes physiques ou intellectuelles qui fait que ça dépasserait la question du genre, en fait?
Intellectuel, oui. Je suis globalement... toujours attirée par des personnes intelligentes, qui ont l'humour, qui ont... Je suis plus sensible, par exemple, au charme qu'à la beauté, normée, ou... Je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais... Oui, peut-être. Les hommes qui m'ont attirée, c'était toujours des hommes très masculins. Et les femmes qui m'ont attirée étaient toujours des femmes très féminines. Donc, je ne peux pas dire que je suis attirée, par exemple, par une beauté androgyne chez un homme qui me rappellerait la beauté féminine. En fait, je suis attirée par des hommes très masculins qui dégagent beaucoup de force, de virilité. Et je crois qu'en fait, avec une femme, c'est ma propre virilité qui ressort. En fait, alors, quand je dis ça à mon compagnon, en fait, ça le fait rire, flipper, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui l'attire trop. Moi, je me suis souvent sentie comme un garçon, en fait.
À quel niveau?
Au niveau... alors pas du tout au niveau physique ni au niveau je sais pas vestimentaire. J'adore me maquiller, j'adore je sais pas les codes de la féminité, je les adore, je m'amuse avec tous les jours depuis que je suis ado. Mais c'est au niveau de je crois ma vibration, je sais pas comment le dire autrement, ma façon de prendre les choses en charge, d'aimer, ma façon de résoudre les problèmes, ma façon d'aimer être indépendante. Un des trucs qui m'a fait le plus kiffer la semaine dernière, c'est de réparer une vitre. Alors je sais que ça fait un peu stéréotypé de dire ça, c'est pas parce que c'est du bricolage que c'est une tâche d'homme, mais je trouve que c'est masculin par-delà la culture. C'est-à-dire que ce que je me suis sentie extrêmement libre, extrêmement puissante, quand j'ai pu dire à mon enfant qui avait cassé la vitre, t'inquiète pas, je vais me débrouiller, je sais, je vais nous protéger en fait, je vais réparer le nid. Et je sais pas, je sais que on m'a souvent dit, t'es très mec dans ta façon de draguer, de pouvoir coucher sans avoir des sentiments, alors oui, c'est des codes culturels, j'en sais rien, mais on m'a souvent dit que j'étais très mec. Et même dans ma façon d'être féminine, ben, j'ai toujours eu l'impression aussi d'être moins une femme qu'une drag queen, en fait. D'être une sorte de mec qui serait dans la peau d'une femme et qui j'ouvrais encore plus de ses seins, de ses fesses, de son rouge à lèvres, de la capacité, le droit que j'ai de mettre un soutien-gorge ou de mettre une jupe ou de que si j'étais née femme. Tu vois, je me suis sentie... Alors, je suis très... Je sais pas, j'ai toujours eu une sensibilité pour tout ce qui était le milieu trans, par exemple. Je suis fascinée par les drag queens, je suis fascinée par, en fait, l'ambiguïté du genre. Mais je crois qu'en fait, c'est parce qu'en moi, ça renvoie à l'idée que, ben, tu vois, comme j'imagine que la sexualité, c'est un spectre, ben, pour moi aussi, le genre, c'est un spectre. Et aussi bien, ben, je sais pas, je suis très maternelle, très, très féminine par plein d'aspects qu'on qualifie de féminin. Mais moi, j'ai l'impression parfois d'avoir envie de jouir de ma virilité. Et par exemple, avec une femme, eh bien ça peut plus ressortir, plus aisément. Tu vois, eh bien, par exemple, dans mes relations avec les hommes, dans mes relations soit de couple, soit simplement de relations, de flirt, il y a pas mal d'hommes qui m'ont dit qu'ils ne se sentaient pas hommes avec moi. En fait, au début, tout se passe très bien, parce que j'affiche beaucoup de féminité. Voilà, tous les codes... je sais pas, jupe, talon, maquillage, etc. En fait, l'homme se sent sécurisé, il sait avec qui il est. Et puis après, dans la relation, ça a été fréquent qu'on me dise, à ma grande surprise, « Ouais, tu me laisses pas être l'homme. Je me sens plus moi-même. Tu m'enlèves mon rôle ou des choses comme ça. » Et je me dis... donc, ça n'a marché, en fait... Par exemple, mon compagnon actuel, si ça marche avec lui, c'est parce qu'il est hyper fort, hyper sûr de lui, hyper calé dans son identité. Il se sent pas insécurisé quand je prends les choses en main ou quand j'ai envie d'être l'homme de la situation, en fait. Pas du tout sexuellement, par contre. C'est pas... Et d'ailleurs, moi-même, j'ai pas du tout spontanément ce genre d'envie avec lui. Mais quand dans notre vie de couple... Quand j'ai ce rôle un petit peu, entre guillemets, masculin, il ne se sent pas du tout fragilisé. Mais je crois que c'était la condition pour que ça marche avec quelqu'un. Et en tout cas, sexuellement, ou même relationnellement, avec une femme, eh ben, je suis l'homme de la situation. Et j'adore ça.
Alors, est-ce que tu en as parlé à ta famille de cette bisexualité ?
Non, non. Ma sœur... oui, elle est au courant, mais mes parents, j'imagine pas... Enfin, je pense qu'ils... je sais pas, peut-être qu'ils se doutent de certaines choses parce qu'ils me savent très militante pour tout ce qui est droit LGBT, etc. Ils me savent aussi très ouverte d'esprit sur la sexualité. Et donc, ils doivent se douter de certaines choses. Mais alors, par contre, avoir des conversations avec eux... là-dessus, non. Si... Et puis en plus, j'ai jamais estimé que c'était vraiment nécessaire parce que si j'avais été en couple avec une femme, bien sûr, c'était ma vie et je suis très proche de ma famille, de mes parents. C'était totalement nécessaire et normal d'aller leur parler de ça. Mais je trouve que j'ai pas eu de nécessité. En fait, ça relève de ma sexualité, de mon intimité. C'était pas forcément des conversations que je voulais avoir avec mes parents. Voilà.
Ouais, donc, c'est vraiment ton espace de liberté, en fait, la sexualité. Tu m'en avais parlé un petit peu.
Oui, c'est ça. C'est le bastion de liberté. Alors, par contre, avec mes amis, je suis très transparente là-dessus. Même avec mes enfants. J'ai une façon d'aborder le sujet qui est sans tabou. Je pense que quelque part aussi c'est ma façon de leur dire qu'ils ont le droit d'aimer qui ils veulent, d'être qui ils veulent, comme ils veulent. Mais même si je leur parle pas de sexualité, enfin je leur parle d'amour évidemment, ils sont tout petits. Oui, c'est mon bastion de liberté. Alors, je l'ai toujours ressenti comme ça depuis toute jeune fille. Et finalement, de garder une part de secret là-dessus, en tout cas avec ma famille, c'est aussi une manière de préserver cette liberté, de la préserver des jugements, des soucis de mes parents, de leurs questionnements, voilà. Et même par rapport à mon milieu professionnel, je sais que c'est... Je pense, Je pense que mes élèves eux aussi s'imaginent, pour certains ont l'intuition que quand je tiens des discours un peu militants sur l'égalité, qui défendent justement la visibilité de l'amour homosexuel, je pense qu'ils se doutent de quelque chose, qu'ils se doutent que c'est quelque chose de personnel, qui me touche vraiment personnellement. Après, je pense pas que ce soit vraiment mon rôle d'en parler plus que ça, de parler de ma vie privée. Et puis surtout, alors c'est surtout dans mon milieu professionnel, ce qui me dérangerait le plus, c'est pas tellement que les adolescents avec lesquels je travaille s'imaginent ou sachent quoi que ce soit sur ma sexualité passée ou présente, c'est plutôt même mes collègues.
Pourquoi ?
Alors, parce que quand on dit qu'on est homosexuel, on fait référence, ne serait-ce que dans le mot, à la sexualité. Et ça veut dire que la plupart des gens qui vont avoir devant eux un collègue qui s'avère être homosexuel vont le voir comme un prof qui est homosexuel et vont en venir à l'imaginer dans sa sexualité, ce qu'on n'a pas à faire et ce qu'on ne fait pas en fait quand on est face à quelqu'un qui est hétérosexuel. Quelqu'un qui est hétérosexuel, je ne l'imagine pas au lit avec sa femme. Alors je dis « je », c'est pas moi.
Hein. Certains le font, hein, tout de même.
Certains le font, ouais. Mais tu sais, mais voilà, c'est de l'ordre du fantasme et c'est pas forcément automatique. Alors qu'effectivement, le dégoût que certains peuvent avoir ou le fantasme, au contraire, que certains peuvent avoir quand on leur parle d'homosexualité vient du fait que tout de suite, ils ont des images. Et je trouve ça très, très intrusif, assez violent. Par exemple, quand je dis que je suis en couple, là je suis avec un homme, quand je dis que je suis en couple, il ne viendrait pas à l'esprit de préciser que je suis en couple hétérosexuel et je fais l'amour avec un homme qui pénètre mon vagin avec un pénis. Enfin, c'est des choses qui sont totalement accessoires. Et j'imagine que quelqu'un qui sait que je suis en couple, si je ne précise pas avec un homme ou avec une femme, va penser avec un homme et son imagination va s'arrêter là, sauf si effectivement il a, comme tu dis, envie de s'imaginer les choses plus avant. Mais si je lui dis je suis en couple avec une femme, ben je sais que beaucoup vont avoir le regard qui vrille en fait, vont être en train d'essayer de me figurer... avec une femme, mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce que ça... Ah, j'aurais jamais cru. Ah, ça, c'est pas... Tu vois, en fait, si je dis ça, c'est parce que les fois où j'ai pu parler de ma bisexualité avec quelqu'un qui n'était pas suffisamment proche de moi ou dans un discours tranquille aussi sur lui-même, j'ai eu ce genre de réflexion. Ah, j'aurais jamais cru. En te voyant, on dirait pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis surtout... Qu'est-ce que tu es en train de t'imaginer maintenant ? En quoi ça modifie ta perception de moi ? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de différent ? Et voilà, c'est vrai que ça peut être un confort de s'économiser ça.
Toi, en tant que professeur, qu'est-ce que tu peux observer sur la manière dont les jeunes appréhendent la sexualité en général et peut-être la bisexualité ?
Alors, je suis partagée entre l'envie de te dire qu'il y a eu une énorme évolution depuis... depuis le moment où j'avais leur âge, 16 ans, 17 ans. Et puis l'impression que quand même il y a des points de résistance encore énormes, des gros tabous sur la sexualité et sur l'homosexualité en particulier. La grosse différence, c'est que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus informés. Mais pas forcément bien informés ou pas avec des informations de sources... comment dire, informé, mais par exemple par la pornographie. Voilà. Je suis toujours surprise de savoir à quel âge ils ont eu accès à la pornographie pour la première fois. Et c'était au collège, vraiment tout jeune, parfois en sixième. Donc voilà, moi, je les récupère en seconde avec 4 à 5 ans d'images pornographiques dans la tête, qu'ils l'aient voulu ou non. Et ça, c'est quelque chose... Enfin, les adultes, les parents ont du mal à encaisser... encaisser cette réalité. C'est un petit peu difficile d'imaginer que nos enfants ont accès très très jeune à tout type de contenu, Mais quand je discute avec eux de ça, je me rends compte que, qu'ils l'aient voulu ou pas, ils y ont eu accès. Donc en fait, c'est une histoire de proportion entre ceux qui seront tombés dans la pornographie de manière addictive, ceux qui ont un usage récréatif comme on pouvait l'avoir quand on luttait avec, pour trouver une VHS chez le copain de machin truc, ou ceux qui, malgré eux, ont eu un, tu sais, des pubs, etc. sur leur téléphone. Ils ont tous vu des images porno. Et au-delà de la pornographie, y a tout le jeu publicitaire, médiatique, etc., avec des images qui mettent en scène des fantasmes d'homosexualité. Donc, à la fois pour eux, l'homosexualité, la bisexualité, c'est des choses qui sont banalisées. Dans les représentations, etc. Et en même temps, je les sens pas forcément toujours mieux informés ou moins en proie à des tabous ou à des idées reçues. Parce que justement, leur source principale d'information sur la sexualité, ça reste malheureusement la pornographie ou la culture du porno de manière générale, c'est-à-dire pas forcément dans le cinéma pornographique, mais dans tout ce qui est pub, porno chic, ou j'en sais rien. Donc, par exemple, ils ont pu voir tous un rapport lesbien filmé ou photographié, mais ils sont tout aussi intimidés quand il s'agit de parler d'amour entre femmes ou d'amour entre hommes. Ou de... C'est à la fois banalisé et pas normalisé. Il y a aussi, évidemment, une énorme différence de perception pour eux, mais j'ai l'impression que c'est un calque des générations précédentes entre l'homosexualité féminine et l'homosexualité masculine. Donc ça n'a pas tellement changé chez la jeune génération. L'homosexualité féminine, c'est un câlin entre copines qui n'est pas très grave, voilà le terme qu'on peut entendre. Alors que l'homosexualité masculine, c'est vraiment, on est passé de l'autre côté du miroir. Si tu as un rapport avec un homme, c'est que tu es quelqu'un de différent. Tu peux pas, ça peut pas être une expérience, c'est qui tu es, une autre planète. Donc il y a ça, et puis... le discrédit jeté notamment sur l'homosexualité masculine, il existe toujours. Les insultes liées à ça aussi, l'idée de ce qui est normal, pas normal, il y a toujours ça. Mais je pense que c'est parce qu'en fait, l'école, l'éducation n'est pas à échouer pour l'instant, je trouve, à s'emparer... des thèmes de la relation affective. Pour l'instant, on n'est pas au point là-dessus, pas du tout. Donc en fait, malgré tout, les seules sources d'information de nos jeunes sont à peu près les mêmes que celles qu'on avait, c'est-à-dire des parents qui ne sont pas forcément à l'aise, qui peuvent l'être, mais qui le sont rarement, et puis des contenus clandestins, en fait, qui ne sont pas passés à la moulinette de l'esprit critique, de la rationalité avec les adultes qui peuvent dédramatiser tout ça. Donc, voilà, à la fois, c'est banalisé et pas dédramatisé.
Est-ce que toi, à travers tes cours et à travers les textes que tu peux proposer en tant que professeur de français, tu abordes ces questions-là ?
Oui, oui, oui. Et sans hésiter à le faire. C'est de toute façon, on ne peut pas parler de littérature sans parler d'amour. C'est pas possible. C'est le sujet le plus intéressant pour moi et pour les ados, de toute façon. Et à partir des textes, dès qu'on est sur un texte, les élèves vont tout de suite essayer de poser des questions sur la vie. Parce que déjà, ils ont envie de dériver des figures de style et de la grammaire, etc. Ils ont envie de discuter avec un adulte. Ils ont envie de discuter de ce qui les préoccupe. Et donc, oui, on va aborder ce... C'est pas moi qui vais les orienter, vers tel et tel type de questions, mais n'empêche que ces questions d'amour, de sexualité, d'hétérosexualité, d'homosexualité ou autre, elles arrivent toujours dans l'année, elles sont inévitables parce qu'en fait, ils vont poser la question d'eux-mêmes. Et je vais jamais aller au devant de leurs questions, mais par contre, je répondrai toujours aux questions qu'ils me posent. Et c'est un tabou. Et je pense que c'est mon métier. C'est mon métier d'adulte, d'éducatrice.
Alors, dernière question, Roxane. Pourquoi avoir accepté de témoigner ?
Bah, parce que l'amour, c'est le sujet le plus intéressant qui soit. Et je trouve que c'est la porte, l'amour, la sexualité, c'est une porte d'entrée incroyable pour comprendre ce que c'est qu'un humain. Pour comprendre qui il est derrière son masque social, derrière ses structures culturelles. Finalement, ses désirs, sa sensualité, sa sexualité, c'est vraiment une manière de parler de qui on est, de comment on est avec les autres, de comment on aime. C'est, je crois, la meilleure façon d'explorer l'humain. Donc, en fait, le sujet de ton podcast... Je trouve tellement... Moi, j'aimerais écouter ton podcast, donc y participer, ben, je trouve ça tout à fait naturel.
Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup. Cet épisode est maintenant terminé, mais vous pouvez retrouver les autres épisodes de Cœur à Corps sur toutes les plateformes d'écoute. Pour suivre les actualités du podcast, vous pouvez me retrouver sur le compte Instagram et la page Facebook de Cœur à Corps. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. C'est très important pour m'aider à faire connaître le podcast. Et bien sûr, si vous adorez le contenu et si vous voulez m'aider à me développer, vous pouvez également contribuer à hauteur même de quelques euros à ma campagne de financement participatif sur Tipeee. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite pour un prochain épisode de Cœur à Corps.